Nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères.
Radio U, textuel, lire pour vivre mille vies.
J'écris de chez les moches. Pour les moches, les vieilles, les camionneuses.
Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils grandiront.
Les tarés, toutes les exclues du grand marché à la
J'avais fait remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de quelqu'un.
Au chapeau de feutre.
Tu aimes les hommes d'amour, d'enthousiasme et tu es féministe depuis l'adolescence.
Accoudée au bastingage.
La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté.
Textuel, lire pour vivre mille vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je nous trouve extrêmement fatalistes. Le monde va mal, la planète est malade, nos sociétés vont mal, mais la question qui nous obsède, c'est « y a quoi à la télé ce soir ?» Samedi, j'ai rencontré des sauvages. Ce sont des hommes qui viennent de Tikopia, une petite île de l'océan Pacifique, parmi les îles Salomon. C'était au cinéma, après le film, une délégation menée par le roi de l'île, issue d'une civilisation de 3000 ans, s'avance. Ce sont des hommes qui marchent d'un pas tellement lent et solennel, qui parlent avec une telle douceur, qu'ils imposent autour d'eux le respect, la paix et la sérénité. Ces hommes aimeraient bien pouvoir continuer à vivre en harmonie avec la nature. Ils sortent de leur île parce qu'ils aimeraient bien que les cyclones arrêtent de s'enchaîner à un rythme effréné qui ne laisse plus le temps aux arbres de pousser. Ils aimeraient que leur lac puisse redevenir de l'eau douce potable, que la vie sur l'île puisse perdurer. Et pour ça, ils n'arrêtent pas de trouver des solutions et d'agir. Ils ont des principes, le refus de l'argent et rester à l'écoute de leur île, de la terre, de la planète. Ils viennent en France parce qu'ils ont besoin de nous, mais ils pensent que nous avons encore plus besoin d'eux, de leur sagesse, de leur savoir. Ils pensent que la planète est vivante et que comme tout être vivant, elle a droit au respect et à l'écoute. Ils pensent que les humains aussi sont des êtres vivants. Et moi aussi, je pense ça. C'est pourquoi je vais vous lire ce soir des extraits d'un roman de Anne Sibran qui raconte l'enfance d'un chaman. Nous partons pour des journées entières dans ce qui me semble être une course ardente et épuisante, toute ponctuée de rencontres et d'énigmes. Tu commences le voyage en réveillant dans la jungle ces noms secrets que tes ancêtres avaient cachés dans de vieux arbres, des rochers, une source. Parfois vient aussi la légende dont tu me présentes quelques témoins. Nos promenades sont surtout prétexte à ranimer des bribes de ton enfance qui palpitent encore, intactes, dissimulées sous les feuilles tout au long des sentiers. Si les premières années de notre vie côtoient parfois le merveilleux, celles d'un chaman apprenant à marcher dans le monde des esprits ont quelque chose de prodigieux. Je l'avais déjà remarqué en écoutant les femmes. Ta vie semble une fable. Mais ce qui me fascine particulièrement, c'est la façon dont ce merveilleux s'accorde avec l'endroit où il est raconté. On dirait qu'il en émane. Quand tu racontes, chaque arbre qui nous entoure semble hocher la tête pour acquiescer derrière tes mots. Cette acoustique plus large, cette résonance du récit avec le lieu, donne au miracle des pieds légers. Il s'enchâsse parfaitement dans la réalité, tandis qu'une autre vérité se montre, à la fois humble et sublime, anodine et extravagante, mais qui toujours sonne juste. En t'écoutant, j'ai l'impression de voir germer les contes à l'œil nu. La langue dans laquelle tu me plonges est bien plus vaste que l'homme. Un verbe palpitant et contagieux dont je pressens qu'il fut aussi le nôtre avant l'invention de l'écriture. Ici, les mots trottent encore en liberté, comme s'ils venaient à peine de surgir, ou que leur sens en mutation, leur vibration diffuse, n'appartenait pas seulement à l'homme, mais à tout ce qui l'entoure. En me promenant avec toi, j'ai l'impression de parcourir un livre vivant, dont la rencontre avec l'arbre ou la bête ranime quelques paragraphes, que tu me lis à voix haute. L'expérience est si concrète que je suis sûre que le récit n'aurait pas été le même si nous avions emprunté un autre sentier. We shed some tears of love now, like a desert in the rain. When son of the dead I went to love, there's nobody like my mom. There's no place like my home since I was born. When I was young, the flavor is so strong. I've missed it so long now. On peut dire d'un homme qu'il est doué pour la forêt. C'est un art subtil, exigeant, qui combine l'attention, la danse et le chant. Il y a une façon de poser le pied, de lancer le corps, de percer les feuillages sans rien enfreindre, et tout en écoutant la partition pour y prendre son tour lorsque vient le moment. Dès lors, ces cris de singes, d'oiseaux, la passée du vent dans les branches, la rumeur du courant entrent dans l'attention de l'homme et fusionnent. Lorsqu'il les hante, la forêt trouve sa musique, elle est comme unifiée. Que serait la beauté sans le regard? Que serait la forêt sans le chant? Ainsi Balthazar Tanguilla chantait quand il courait sous les arbres. La forêt s'ouvrait devant lui, écartant les branches, soulevant les lianes. Un sillon de feuillets presque liquide le précédait. Partout où il posait le pied, il y avait cette révérence, comme un frisson de joie. Comme chaque fois qu'il se trouvait dans une situation difficile, il grimpa en haut de cette colline où vous allez vous autres pour poser les questions. « Pourquoi la forêt m'a-t-elle voulu ? » cria-t-il avant de s'asseoir. Puis il cessa de boire et de manger. Des semaines, il resta sur sa pierre, grillé par le soleil, battu par la pluie, gouttelant sous la brume glacée des nuits de jungle. Après quelques jours, une mousse fine vint sur sa peau et toutes sortes de fougères poussèrent dans ses cheveux. Comme il perdait son odeur d'homme, des petites bêtes avaient pris l'habitude de venir aux heures chaudes chercher un peu d'ombre sous ses cuisses, au-dessous de ses bras. À présent, il campait entre deux souffles. Il ne lui restait plus qu'un fin filet de vie. Son cœur battait avec la lenteur d'un cœur d'arbre. Mais il sentait sous ses pieds la pulsation de la forêt. Il entendait couler chaque chose. Le crissement de l'insecte, le chant de l'oiseau, le pas de l'animal vibraient aussi en lui. Le premier de tous les chants est ce dialogue qui tisse la voix de l'homme avec celle de la terre. Il contient à la fois l'élan et la réponse, la joie de la promesse et le monde en écho. Ce corridor entre deux vies s'appelle aussi le chant des limbes. Il s'ouvre à l'aube, ce chant infime, sur la marche vertigineuse du plateau qui s'interrompt au-dessus des grands arbres. Les lianes s'y jettent, y dégringolent comme des ruisseaux. C'est la frontière de ton pays, une paroi ocre, percée de niches de perroquets, pétrie par la main noire des grands singes. Falaise hurlante, basculée jusqu'à l'horizon sous l'écume éclatée des feuillages, dans une mer verte où trempe une montagne, plantée si haut dans le ciel qu'on aperçoit sa neige qu'aux instants d'exception. Pays hérissé de collines, sentier de crêtes éreintant avec, au moindre prétexte, le souffle d'une cascade, la dévalée d'une source, le regard mauve d'une lagune retenue en haut d'un mont. Tandis qu'au couchant, à l'autre bout de ton pays, on distingue les méandres bruns et roussâtres du grand fleuve Amazone. Plongée de la falaise, c'est entrer d'abord dans cette tiédeur saturée de parfums, l'haleine de la forêt. Il y a toujours cette expiration un peu tiède qui flotte au-dessus des arbres et qui se montre parfois dans une brume effilochée. Mais, perçant le rideau des feuilles, la lumière s'interrompt, l'air s'épaissit, les odeurs viennent cogner lourdement et repartent, la terre luit faiblement comme un ciel renversé. Et partout cette musique, tendue entre les branches, dans les fils de lumière et dans les gorges d'ombre, cette vibration portée de gueule en gueule, amplifiée au froissement d'un élytre, d'un cri rauque, d'un roulement dans le cou d'un oiseau. À chaque instant, la forêt est épaisse de ce qu'elle s'apprête à dire, ou bien de ce qu'elle tait. Tout parle. Sous les mousses, au coude d'un vieil arbre. Même le parfum au ventre de la fleur est un mot prononcé. Cette acoustique singulière, cette luisance mystérieuse sur le dos des rochers n'existe pas partout avec la même intensité dans la forêt, mais seulement dans certains endroits où l'homme n'aura plus le droit de pénétrer par la suite. Ce sont les portes, ces passerelles entre les mondes où habitent les esprits. Comme on le sait, dans vos histoires de famille, ce mélange inextricable de fables et de réalité. Comme si vous étiez sans cesse à rejouer la création du monde, jusque dans vos moindres gestes. Que, depuis l'autre côté du rideau bariolé, vos mythes avaient besoin de figurants, de corps chauds et de cris. Ainsi, on raconte que cette nuit-là, la nuit d'après la rivière, donc, tandis que Sisa se reposait, quelqu'un s'approcha, qui se pencha sur elle, puis vint se serrer sur chacune de ses courbes, depuis le bout de ses pieds jusqu'au creux de son épaule. Les yeux de la jeune fille s'entr'ouvrirent un instant, mais la caresse était si tendre qu'elle se sentit basculer, suspendue à ce vertige qui dressait la pointe de ses seins. À son réveil, Sisa découvrit au creux de sa main un collier de plumes multicolores, tissé avec tant de finesse qu'elle le dissimula sous sa natte aussitôt. Elle avait encore en mémoire le regard transparent de Cristobal Tanguila. Mais il y avait maintenant cet amant sans visage, et d'y songer seulement, elle sentait le désir palpiter dans son ventre. « Je suis comme Fulucu, » pensait-elle, « l'amante de l'homme lune, qui surgit sur sa couche quand la nuit est tombée. » Fulucu, dans vos mythes, est la mère des hommes. La première à aimer, à donner vie, et qui deviendra par la suite ce petit aigle de nuit au chant poignant. Avant l'amour, avant que Fulucu ne devienne l'amante de l'homme lune, le monde n'était pas encore né. Tout attendait sans attendre, les hommes, les bêtes, les étoiles et les plantes. Pêle-mêle, parlant une même langue, travaillant sans effort, mangeant sans appétit. Tous dormaient sous un grand toit de palme, par une nuit toujours également grise, comme l'était le jour aussi. Pour s'aimer plus librement, Fulucu et son amant gagnent la forêt. Ils jouent à s'y poursuivre, l'un chassant l'autre. Partout, ils se relancent, s'embusquent, se talonnent. Pour mieux bondir l'un sur l'autre, et criant cette fois à leur guise, quand il s'attache en elle alors qu'elle le repousse. Et puis qu'il la reprend. Tandis que quelque chose s'invente dans la terre, sous les mousses, partout où ils se sont couchés. En ces temps d'avant-soleil, la terre est si féconde. Un peu de leur sueur, de leurs semences, de leur rire mélangé, et voilà qu'un petit monticule se forme soudain, d'où surgit une bête neuve, un oiseau inconnu. Savent-ils seulement que leur amour clandestin est en train de faire germer le monde ? Enfoui dans cette pénombre indécise, la terre dormait depuis toujours, sans émoi ni palpitation. Il fallait cette première attraction, le fluide infime de cette passion sans témoin, pour initier cette chaîne de réactions d'où surgiraient tous les désordres. Ils ignorent, tandis que leur bouche se trouve, que leur sexe s'accouve, que le ciel se détache lentement de la terre qu'ils dissimulaient entièrement. Déjà, les fleuves rampent vers leur lit, les arbres enfoncent leurs racines à l'endroit qu'ils se sont choisis. Jusqu'alors, tout vivait côte à côte, sans état d'âme. Désormais, il y aura un bas, un haut, un jour, une nuit, un soleil, une lune. Les poissons rejoindront le ventre des rivières. Les étoiles grimperont dans le ciel. Les fauves gagneront la pénombre des forêts. Finie l'ambiguïté des premiers âges, ces troubles imbrications. Une préférence a suffi pour mettre le monde en mouvement. Je vous ai lu des extraits de « Enfance d'un chaman » de Anne Cibran, publié chez Gallimard en 2017.
Textuel, lire pour vivre mille vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.